Écho d'économie.
L'hôtel de ville de Kinshasa réfléchit sur les moyens nécessaires pour un recouvrement maximal des taxes et impôts du ressort de la ville. Un atelier financé par l'Union européenne à ce sujet a eu lieu ce week-end dans la capitale congolaise. L'actualité, c'est aussi le petit commerce auquel recourent les expulsés de Brazzaville logés à Maluku. Notre reporter qui s'est rendu dans ce camp a découvert des restaurants de fortune, mais aussi des petites boutiques qui leur permettent de survivre. Et puis sachez qu'une délégation de la Banque mondiale a entamé une mission en République démocratique du Congo. Déjà ce lundi à Lubumbashi, cette mission revoit des nouvelles stratégies pour le secteur des transports ferroviaires. Bonsoir et bienvenue à tous. Le gouvernement provincial de Kinshasa est depuis le mois de février dernier doté d'un budget pour l'exercice 2014. Ce budget se chiffre à plus de 44 milliards de francs congolais. Mais comment mobiliser les ressources, notamment les taxes et impôts du ressort de la ville? Cette question était au centre d'un atelier organisé le week-end dernier par le ministère provincial en charge des finances et économies avec le financement du programme d'appui au démarrage de la décentralisation, PAD en sigle, une structure de l'Union européenne. Daniel Tambinzoni revient sur les grands moments de cet atelier.
Un contrat de performance entre les régies financières de la ville de Kinshasa et le ministère provincial des finances est conçu. Il devrait d'abord passer au Conseil des ministres avant sa signature entre les parties. Le coordonnateur du programme d'appui au démarrage de la décentralisation, structure de l'Union européenne qui a financé ses assises, parle des résultats attendus. Yves Renaud.
Le résultat attendu directement pour la ville de Kinshasa, c'est de permettre l'amélioration des ressources propres de la ville de Kinshasa. Nous travaillons avec Kinshasa déjà depuis 3 ans sur l'impôt foncier par exemple, sur la collecte d'autres taxes, et nous nous sommes rendus compte que malgré les promesses, le résultat n'était pas forcément là. Donc il y a des textes, il y a des mécanismes qui sont mis en place, des outils pour la collecte des recettes, mais on voit que les collecteurs, les services de recettes en tout cas, ne mobilisent pas suffisamment les recettes. Donc l'idée à travers ce contrat de performance, c'est d'inciter les agents collecteurs à être plus performants.
Seulement 45% de la population kinoise avait payé l'impôt foncier en 2012-2013, reconnaît Guy Matondo, et au ministre provincial des Finances de rassurer que le nouveau contrat de performance en tiendra compte pour que ce qui s'est passé ne se reproduise.
Vous avez des gens qui ont des moyens, ils n'ont pas pu payer l'impôt foncier parce que la fois passée c'était Makala qui était la première commune avec Kimbanseke. Au mois de juin, nous lançons encore la campagne par rapport à 2013 et nous pensons que par rapport à tout ce qu'on nous a donné comme observation, surtout pour les gens de catégorie 1, les quartiers résidentiels, je pense que cette fois-ci, comme on a fait un système de forfait même à leur niveau, ils auront la facilité de s'acquitter.
Le directeur général de la DGRK, principal service collecteur des ressources financières de la ville, a préféré ne pas livrer à la presse la taille des assignations de sa structure.
Pendant ce temps, à Matadi, les décideurs du Bas-Congo ont participé à un séminaire de formation sur l'initiation aux nouvelles procédures de passation des marchés publics. Ces assises de 3 jours ont été organisées par le gouvernement provincial en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics et l'appui financier de la Banque mondiale. Selon le commissaire provincial au plan, Simon Mbosso Kiamputu, les marchés publics représentent 60% de la dépense publique. Donc, pour avoir une bonne qualité de la dépense, il faut avoir une bonne organisation du système de passation des marchés. Simon Mbosso Kiamputu le dit à Dani Kindanzita.
Les fonds, notamment les investissements sur transfert de ressources dans les secteurs à compétences exclusives, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement rural et les petites infrastructures, sont encore gérés par le gouvernement central. Et pour qu'ils puissent dépenser cet argent-là, nous devons suivre les procédures prescrites par la loi et le manuel des procédures de passation des marchés publics. Et c'était très important que chacun des acteurs qui sont concernés, autorités contractantes, chaque ministère, les différents commissariats, les différentes administrations qui ont des projets qui sont inscrits au budget dans leur secteur, ils doivent maîtriser les procédures de passation des marchés pour qu'ils préparent les dossiers en respectant toutes les procédures pour que quand ils arrivent au niveau du paiement, les paiements puissent se faire. Or, si ces procédures ne sont pas maîtrisées, ces crédits ne seront jamais consommés.
Relocalisés depuis mardi dernier à Maluku, les expulsés de Brazzaville recourent à certaines activités pour survivre. Si les uns n'ont rien à faire et ne jurent plus que par leur retour dans leur milieu d'origine, d'autres par contre se lancent dans des petits commerces pour subvenir à leurs besoins. Cela d'autant plus que depuis leur arrivée sur le lieu jusqu'à ce vendredi, ils ne sont toujours pas nourris. Notre reporter Jacques-Yves Moulima était dans ce camp des expulsés, suivant son reportage.
Mais entre Kuluna stade,
s'il faut comparer entre le stade et ici, je pense que là au moins nous mangeons. Ici on ne mange pas, on a faim. En plus nous n'avons pas d'argent.
Eh bien oui, ces expulsés sont à bout de force. Ils ne reçoivent rien jusque-là comme nourriture. Pourtant, parmi eux, il y a des familles nombreuses. C'est le cas de cette femme et son mari.
Nous sommes au total 9, nous avons 7 enfants.
Mais comment nourrir tout ce monde? C'est l'équation à résoudre chaque matin. Mais cette femme qui entend encore le rapatriement vers son milieu d'origine a trouvé une solution.
J'ai mon petit restaurant de fortune pour aider mes frères les expulsés. C'est le même métier que je faisais à Brazzaville. Ici également, je ne pouvais pas rester sans rien faire.
Avec un petit 500 francs congolais, on peut se procurer un morceau de poisson chinchard pour calmer sa faim. Mais la quantité n'est toujours pas suffisante pour tous les expulsés à Maluku. Par ailleurs, pour cette autre femme qui risque de mettre longtemps dans ce site, n'ayant pas d'endroit où aller, ce commerce l'aide à survivre.
Je n'ai pas d'endroit où aller, toute ma famille est en Angola. De mon retour après avoir passé 10 ans à Brazzaville, j'ai trouvé que la parcelle a été vendue. J'ai 6 enfants, je ne sais où aller, voilà pourquoi je me débrouille pour nourrir les enfants.
La débrouillardise semble être l'unique voie de survie pour beaucoup dans ces camps des expulsés de Maluku.
Pendant que les uns se débrouillent pour trouver de quoi se nourrir, au Katanga, les agriculteurs de Kanyama n'arrivent pas à écouler leurs produits agricoles depuis quelques mois. Et pour cause, les acheteurs se font rares. Conséquence, la monnaie ne circule pas assez dans ce milieu. La Fédération des entreprises du Congo, section de Kanyama, elle, accuse le mauvais état de la route d'être à la base de cette rareté des acheteurs. Dites-nous en plus, Paul Munanga.
La cité de Kanyama connaît une moisson abondante cette saison culturelle avec la production du maïs, de haricots jaunes et verts, du manioc, de l'arachide et du riz. Par exemple, un seau de maïs qui coûtait 1200 francs congolais se négocie actuellement à 500 voire 400 francs congolais au centre de la cité et à 300 voire 250 francs congolais à l'intérieur de Kanyama. Malgré l'abondance de la production, les acheteurs sont à compter au bout des doigts, d'où la désolation des agriculteurs du coin. Pour la Fédération des entreprises du Congo, section de Kanyama, les commerçants des provinces du Kasaï, qui sont des potentiels acheteurs, auraient changé leur lieu d'approvisionnement à cause entre autres de la rareté des trains marchandises de la SNCC et du mauvais état de la route. On écoute le président de la FEC à Kanyama.
La production est abondante. Ce sont des centres de consommation qui pouvaient en avoir besoin pour permettre à ce que ça tourne de ce côté aussi. Par exemple, les centres de consommation de ce côté de Mbujimayi. On est dit que le pouvoir d'achat a diminué.
Le président de la FEC Kanyama propose en outre que le gouvernement provincial du Katanga facilite la signature des contrats entre les agriculteurs et les responsables des minoteries implantées notamment à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, ce qui pourrait faciliter l'écoulement de ces produits. Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
Le 8e forum régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de FIDA s'est clôturé le vendredi dernier à Kinshasa. Les participants à ces travaux ont plaidé pour une politique inclusive de développement de la finance rurale en faveur de l'agriculture familiale. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à plaider pour l'accroissement du budget affecté à l'agriculture afin de soutenir les petits producteurs agricoles. Au Kasaï oriental, le directeur provincial de la Banque centrale du Congo est réhabilité dans ses fonctions depuis jeudi dernier par le gouverneur de la Banque centrale. Léon Moussangou a été suspendu après le détournement le 31 décembre dernier de plus de 280 millions de francs congolais par l'ordonnateur délégué, un comptable d'État en complicité avec un cadre de la Banque centrale. Ces fonds de la Rebanque ont été transférés deux fois dans le compte de l'ordonnateur délégué de la province pour la paye des policiers.
Écho d'économie.
Je vous l'ai annoncé, une délégation de la Banque mondiale est en RDC pour la 8e mission de supervision du projet de transport multimodal. Cette équipe est venue revoir avec certains membres du gouvernement les perspectives d'une nouvelle stratégie pour le secteur des transports ferroviaires dans le pays en vue de son élaboration et sa mise en œuvre l'année en cours. Le travail de cette mission, déjà ce lundi à Lubumbashi, avant l'étape de Kinshasa, se fera sur base des conclusions de la revue à mi-parcours du projet financé par l'institution de Bretton Woods, François Kadima.
Cette délégation est en RDC, 6 mois après celle de novembre dernier, à l'issue de laquelle la cellule d'exécution du projet de transport multimodal a reçu la notation satisfaisante. Mais il faut noter que malgré la bonne performance en matière d'absorption du financement qui s'est située déjà à 72,6%, il avait été signalé dans la revue à mi-parcours du projet plusieurs risques concernant le programme de redressement de la SNCC, situation qui selon la précédente mission devrait être gérée à court, moyen et long terme. C'est pourquoi la mise en œuvre du plan de redressement de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC est également inscrite dans les discussions avec les autorités congolaises. Ce plan de redressement vise la réhabilitation et la modernisation de ces installations et du matériel roulant, la réorganisation opérationnelle et financière, les plans sociaux, les besoins en matière de soutien opérationnel et les réformes structurelles à moyen terme. Toujours dans le cadre du projet de transport multimodal, la délégation va revoir aussi l'état d'avancement des activités des autres entités bénéficiaires de l'appui, dont l'autorité de l'aviation civile et la régie des voies fluviales.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Nicole Ngaka, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.